I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Il y a une seule conclusion à tirer de toutes ces histoires d'amour que vous écoutez dans Aix. C'est que l'amour est une affaire de rencontre, bien sûr, mais surtout une affaire de bon timing. Tout est affaire de date. Et Jessica a mis une croix dans son agenda à la date du 2 avril, elle.
On est en septembre 2016, je joue au basket depuis l'âge de 6 ans et je change cette année-là de club pour jouer un petit peu plus haut et je me retrouve à jouer en club dans un village à côté de chez moi. J'ai 37 ans, je suis en couple depuis 6 ans, j'arrive à la fin de mon histoire d'amour qui devient plus une histoire d'amitié et je me sépare du coup en janvier 2017. Donc là je redeviens célibataire avec mes copines qui sont célibataires aussi, donc là je vis ma meilleure vie, je sors, je rencontre plein de gens, avec le basket je rencontre plein de gens aussi. Je profite de mon célibat. Je rencontre plein de nouvelles coéquipières et dans un club de basket, il y a souvent une équipe de filles, une équipe de garçons et du coup, je rencontre Julien et ses copains avec qui je fais beaucoup de soirées d'après-match ou dans la semaine, ça nous arrive de nous retrouver pour boire un verre. On se voit très très souvent. Quand je rencontre Julien pour la première fois, vraiment, je me dis, c'est waouh, c'est mon idéal masculin physiquement. Il est grand, brun, avec des yeux verts, une barbe. Enfin voilà, c'est vraiment mon idéal masculin et vraiment, je flash physiquement. Et en plus de ça, il a un sourire magnifique. Il est vraiment gentil, avenant. Il met toujours la main sur l'épaule pour dire bonjour. Mais voilà, pas plus que ça, puisque lui, il est en couple et moi aussi quand on se rencontre. Donc, c'est un beau mec, j'en parle à mes copines. Mais voilà, ça va pas plus loin que ça. En juin 2017, je rencontre un autre garçon que je connais depuis pas mal de temps, mais que j'avais pas forcément dans mon cercle proche, que j'avais pas vu depuis bien 15 ans et qui était mon crush de quand j'étais adolescente. C'était le mec qui jouait vachement bien au basket, qui était très beau, qui était parfait. Et à une soirée, je discute avec lui et il se trouve qu'on passe beaucoup de temps ensemble dans la soirée. Et finalement, à la fin de cette soirée, il essaye de m'embrasser. Mais moi, je sais qu'il est en couple. Donc, je refuse une première fois. Bon, il revient. Et finalement, je me dis, ce sera coché sur ta liste des choses que tu voulais faire. Donc, je passe la soirée avec lui. Et voilà. Mais je me dis que ça n'aura pas de lendemain et qu'on ne se reverra pas derrière, quoi. Et finalement, le soir même, il me renvoie un message et on commence à échanger beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que tous les jours, on s'envoie à peu près un message toutes les 5 minutes, minimum. Moi, je suis tout le temps sur mon téléphone, lui aussi, on échange beaucoup. On décide finalement de se revoir une fois, puis deux fois, puis l'été passe, on s'est vu plusieurs fois. Et puis finalement, on commence à vraiment lier une relation très, très forte, quasiment fusionnelle, où on ne peut pas passer 5 minutes sans s'écrire un message. On ne se voit pas beaucoup, mais on parle de tout, on a besoin d'avoir un contact. Et petit à petit, commence à s'installer des sentiments. Et à l'automne, ça devient problématique, puisque que lui est toujours en couple. Il est papa de deux garçons et il est en couple avec une nouvelle fille avec qui il vit. Il a ses enfants une semaine sur deux, donc on se voit pas beaucoup. Moi, mes sentiments sont très très forts. Lui me dit que lui aussi. Je lui demande qu'il quitte sa compagne et lui me dit qu'il va le faire, mais qu'il peut pas parce que c'est compliqué pour l'instant. Enfin, avec les enfants, avec l'appartement. Enfin, il y a toujours une excuse qui fait qu'il ne peut pas s'en séparer. Mais pour autant, il m'assure de ses sentiments, qu'il peut pas se passer de moi, vraiment qu'il a besoin de me voir, qu'il a besoin de m'écrire, qu'il a besoin de m'entendre. Et c'est tous les jours. Et je rentre dans ce cercle-là d'attente, en fait. Je suis dans l'attente qu'il la quitte. Moi, je le vis plutôt très mal. En fait, quand je le vois, ça va très bien. Juste après, ben, c'est des jours et des jours très, très mal. Mes copines commencent à s'inquiéter, que je perds pas mal de poids. Mais pour autant, je suis persuadée qu'il va la quitter, qu'il est amoureux de moi et que c'est qu'une question de temps. Je pense que voilà ce qu'on se répète un peu toutes quand on a l'espoir qu'il parte. Mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive jamais jusqu'au moment où, en novembre, moi, je décide d'arrêter. De lui mettre un ultimatum que voilà, s'il la quitte pas, ben, ce sera terminé. Il ne me retient pas. Pour moi, c'est très compliqué. Je suis malheureuse. Je veux qu'une chose, c'est qu'il revienne. C'est revenir. Je tiens peut-être les 3-4 semaines, pas plus. Et puis on se réécrit. Et puis finalement, c'est reparti de plus belle. Mon sentiment sont encore plus important. On s'écrit de plus en plus. Mais il me dit, voilà, j'ai un problème. Je ne peux pas la quitter de suite. Et peut-être que je ne pourrai jamais la quitter. Je trouve pas ce que ça veut dire et je décide de lui faire confiance et d'attendre. Quand on se voit, c'est quelqu'un de très attentif, très à l'écoute, très charmeur, qui parle beaucoup, qui met beaucoup de mots sur ses sentiments, qui pleure parfois parce qu'il me dit voilà, qu'il est malheureux et qu'il aimerait pouvoir vivre notre histoire au grand jour, mais que c'est compliqué et c'est toujours compliqué. C'est quelqu'un de torturé quand même dans l'ensemble. Mes copines, elles sont toujours en train de me dire mais lâche ce téléphone, c'est pas possible, t'es tout le temps dessus, j'écoute aucune conversation, enfin, je suis plus là, je suis tout le temps sur mon téléphone, et lui c'est pareil puisqu'il me répond. Donc je me dis c'est pas possible, elle doit se rendre compte de quelque chose. Pour autant, moi j'essaye pas du tout de rentrer en contact avec elle, je sais même pas qui c'est, et honnêtement ça m'arrange avec ma conscience de pas savoir qui c'est, de pas aller plus chercher plus qui elle est et ce qu'elle vit. Mais je me dis c'est pas possible, à un moment donné elle doit forcément sentir quelque chose. Jusqu'au jour où il sort avec ses copains, et qui boit beaucoup et qui rentre chez lui dans un état certainement lamentable, je ne sais pas, mais qu'il laisse traîner son téléphone et qu'elle regarde dans son téléphone et elle découvre nos textos qui sont clairement... elle ne peut plus avoir de doute. Et elle décide de m'écrire dans la nuit pour me dire... déjà pour m'insulter, ce que je peux totalement comprendre, et me dire qu'en fait, elle est enceinte de lui. Et que voilà, elle n'a pas du tout l'intention de le quitter et qu'elle tombe de 1000 étages, quoi. Je lis ce message au milieu de la nuit, je pense qu'il doit être 2 ou 3 heures, et alors là, c'est je chute d'un immeuble entier, c'est une chute vertigineuse. Je veux pas y croire, mais je me rends bien compte qu'elle peut pas me dire ça si c'est pas vrai, mais je me persuade que c'est faux. J'attends d'avoir des nouvelles de lui pour qu'il me dise que c'est pas vrai, que c'est une blague, enfin qu'elle m'a dit ça pour que j'arrête, ou voilà, je cherche toutes les solutions qui puissent exister pour me persuader que ça n'est pas arrivé et qu'elle ne m'a pas envoyer ce message. Le matin, je me réveille, donc je n'ai pas dormi de la nuit, j'essaye de l'appeler, je tombe toujours sur le répondeur, et au bout d'un moment, quand même, je pense aux alentours de 11h midi, il m'envoie quand même un texto pour me dire qu'elle a tout découvert et qu'elle va m'appeler pour m'annoncer qu'elle est enceinte. C'est la douche froide, puisque je me rends compte en fait que oui, c'est vrai, que là, il n'y a plus de retour en arrière, on ne peut pas effacer le message qu'elle m'a envoyé la nuit, c'est la vérité. Et j'essaye de l'appeler, il ne me répond pas, en mode je suis en pleine discussion avec elle, je peux pas te répondre. Et puis ça reste comme ça, j'essaye de l'appeler, pas envie de parler, c'est très clair, voilà, il n'y a pas d'issue. Et puis notre histoire, je t'avais dit qu'il y avait un problème, notre histoire ira pas plus loin, quoi. aucune explication de plus, malgré que je puisse en demander, c'est beaucoup, oui, je suis qu'un connard, je suis vraiment un mec pas bien, c'est peut-être mieux pour toi, mais tout ça toujours par texto, hein. C'est mieux pour toi, voilà, je te mérite pas, fais ta vie, quoi. Donc là, moi, je suis à ramasser la petite cuillère. Je pleure pendant toute une journée. Bon, j'ai mes copines qui viennent, avec qui je passe pas mal de temps. Je n'arrive pas à me résoudre, à me dire que c'est terminé. Tout s'écroule. J'ai quand même 33 ans à l'époque. J'avais prévu de construire une vie et de commencer à construire ma vie avec lui. Et tout s'écroule, en fait. Moi, je me refais le film et je me dis, bon, ben, c'est pas possible. Soit il m'a menti sur toute la ligne, mais vraiment, j'ai quand même encore du mal à me dire qu'il m'a menti à ce point. Soit, ben voilà, je sais pas, je m'imagine que, voilà, qu'elle lui a fait un enfant d'un dos. Moi, pour elle, c'est la coupable. Je veux encore lui trouver des excuses, pour autant, il en a pas beaucoup. J'apprends ça le 31 mars. 2018. Le lendemain, le 1er avril, il y a une fête qui se fait dans mon club de basket. Moi, j'ai pas du tout envie d'y aller. J'ai envie de rester dans mon lit et pleurer. Je me dis, bon, bah, tu vas penser à autre chose, vas-y, et puis si ça va pas, au pire, tu rentres. Donc, je vais à cette journée, et puis il se trouve que là-bas, bah, je retrouve mes coéquipières, mes potes du basket, dont Julien, et tous ses potes, et puis je passe. Au début, c'est un petit peu compliqué pour moi, mais j'essaye de faire face. J'ai l'impression que je donne bien le change. J'essaye d'être souriante. Je sers au bar de l'association, donc j'essaye d'être avenante, de discuter un peu avec tout le monde. Ça me fait du bien, finalement, de penser à autre chose. Et je passe clairement la journée avec Julien et ses potes. Et on danse, on boit un peu et ça me fait du bien. Bon, j'ai l'impression que je donne le change pendant la journée, que les gens se rendent compte de rien. Mais pour autant, arrive la fin de la soirée. Il doit être, 22, aux alentours de 23h. Et je vois Julien qui s'approche vers moi, qui me prend les deux épaules et qui me regarde droit dans les yeux et qui me dit « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Ça va pas? Il y a un truc qui va pas. » Et donc là, évidemment, est-ce qu'il fallait pas me poser comme question? C'est la question qui tue. Je m'écroule et je me mets à pleurer. Je peux plus tenir, quoi. Je m'effondre littéralement. Dans ses bras, et je pleure, j'essaye de raconter l'histoire, mais j'ai du mal à la raconter. Il comprend pas tout, il comprend quelques trucs, mais je lui dis que c'est foutu, que je retrouverai jamais personne. Je suis vraiment au fond du seau, je suis inconsolable, et finalement ça me fait du bien de pouvoir vider mon sac avec quelqu'un, et il se trouve que c'est Julien. Essaye de me réconforter comme il peut, de me dire que non, qu'il y a d'autres choses qui existent, que je vais forcément retrouver quelqu'un. Et on discute comme ça longtemps, pendant peut-être 2 heures, tous les deux dehors. Arrive un moment où il me dit, il me regarde droit dans les yeux, et il me dit, écoute, on est le 2 avril, je te fais la promesse, on fait le bilan le 2 avril 2019 et tu seras très heureuse. Bah, ok, ça me fait plutôt rigoler. Et la soirée se finit, on rentre tous. Et moi, je rentre me coucher, je pleure toujours, je suis toujours malheureuse. Mais ça m'a quand même fait du bien de vider mon sac. Les semaines qui suivent, elles sont très 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 compliquées pour moi. Mais j'ai la chance d'avoir un entourage très présent, avec des copines qui sont là quasiment tous les jours. J'essaye d'avoir plus d'explications, j'arrive pas à avoir plus d'explications que désolé, je suis un pauvre mec, laisse tomber, c'est pas la peine, passe à autre chose. Donc ça, l'un dans l'autre, c'est plutôt pas mal, puisque ça me permet de vraiment faire le deuil et de me dire, bon, mais c'est vraiment fini et il se passera plus rien. Pour autant, je suis quand même malheureuse et j'ai du mal à refaire surface. Julien prend souvent des nouvelles, m'envoie souvent des textos pour savoir si je vais mieux. On se voit un petit peu au basket, donc je vois quand même pas mal de monde aussi. Voilà, on passe de plus en plus de temps ensemble, et c'est souvent avec lui que je finis mes soirées ou que je discute longuement.
même si on parle de tout et de rien, mais c'est vrai qu'on lit une relation de plus en plus forte, en fait. Moi, je me reconstruis petit à petit, sans pour autant forcément atteindre quelque chose de lui ou de quelqu'un d'autre, mais j'essaye de ressortir, de rencontrer des gens, mes copines elles m'ont mis sur les applis de rencontres, mais j'ai toujours Julien qui m'écrit et avec qui j'ai cette connexion tellement simple et tellement facile que je m'accroche un peu à lui, tout en me disant que voilà, lui il est en couple et que je revivrai pas deux fois la même chose, donc je lui fais même pas d'appel, quoi. C'est juste que ça me fait du bien de passer du temps avec lui. Petit à petit, je me sens mieux. Je retrouve un peu la joie de vivre. Je sors, on fait pas mal de soirées. Et arrive une soirée où je me retrouve du coup à discuter avec Julien. Et il me dit, si j'étais pas en couple, je serais certainement avec toi. Il me dit clairement que je lui plais, qu'il y a quelque chose entre nous. Mais pour autant, moi, je lui dis non, moi, je ferai pas deux fois la même erreur. Donc, si ton histoire, elle est finie, termine-la, mais ne la termine pas pour moi, surtout pas. Et moi, tant qu'elle n'est pas terminée, il se passera rien, quoi. Et il se trouve qu'en juin 2018, il quitte sa copine avec qui ça se passait plus forcément très très bien. Derrière, on fait une journée rafting et une soirée. Donc déjà, pendant la journée rafting, on est collés l'un à l'autre. Donc il s'est toujours rien passé, mais on est quand même tout le temps ensemble. Il y a, je crois, un saut à faire de 3-4 mètres depuis un rocher. Moi, j'ai la peur du vide, la peur panique. Et il me prend la main pour sauter. Et moi, je sens qu'il y a un truc, il se passe quelque chose, quoi. Et dans la soirée, finalement, on se retrouve tous les deux et on s'embrasse. On s'embrasse et c'est tellement évident et c'est tellement dans la continuité de la relation qu'on a pu créer. Et puis je suis totalement en admiration devant lui. Je trouve que c'est quelqu'un de parfait. Je suis sur un nuage et ça me fait un bien fou. Et c'est comme si c'était écrit. C'était sous les étoiles. Magnifique. On peut pas rêver mieux, quoi. C'était évident. Donc après soirée là, on se revoit le lendemain, on discute sur ce qui va se passer, est-ce que vraiment il a envie. Moi je lui demande si vraiment il se sent prêt à repartir dans une histoire ou pas, parce que c'est quand même très rapide après la fin de son histoire d'avant. Et voilà, je lui dis si tu veux profiter de l'été, moi je comprendrai. Après peut-être que je t'attendrai pas. Alors je savais que je l'attendrais, mais je lui sous-entends que voilà, que s'il fait le choix de s'amuser l'été, tant pis pour lui, quoi. Mais pour lui, c'est pas, voilà, il réfléchit même pas une demi-journée. Il me dit, mais non, moi, j'ai envie d'être avec toi. Depuis la première fois que je t'ai vue, je sais que c'est toi. T'es mon idéal féminin. Je veux faire ma vie avec toi. Il n'y a pas de questions à se poser. On verra où ça nous mène, mais lui, il a aucun doute sur notre histoire et sur le fait qu'on était fait l'un pour l'autre. Et effectivement, à force de passer du temps ensemble, on se rend compte qu'on a des choses en commun, qu'on a plein de choses en commun. On joue tous les deux au basket, on a le même rythme de vie, on a la même façon de s'amuser, on a un peu le même sens de la famille, on est très proches de nos familles respectives, on a vraiment besoin d'être entouré par nos familles, par nos amis. Lui, il travaille dans le soin, moi je travaille dans le social, c'est des métiers de vocation. On a plein de choses qui font qu'on se retrouve. Et puis moi j'ai l'impression que tout ce qu'il décrit de lui et tout ce qu'il me montre de lui, c'est ce que j'attends d'un homme, quoi. Et j'ai l'impression que l'inverse est vrai. Moi j'aurais pu être craintive, être inquiète, pas vouloir m'engager après ce que j'avais vécu, avoir un peu peur, avoir un manque de confiance. Mais lui, il m'a tellement prouvé, parce qu'il est en fait, il est tellement droit, même dans la vie, il est capable d'expliquer, de mettre des mots sur ses sentiments très facilement. Et puis il sait pas que des mots, les actes vont avec ce qu'il dit. Et très très vite, il me met en confiance. Et je crois que même depuis le début, je sais que c'est quelqu'un en qui je peux faire confiance et qui me fera pas de mal, en tout cas. On voyage pas mal, on essaye de faire plein de choses tous les deux. Et très vite après l'été, donc ça fait peut-être 3-4 mois qu'on est ensemble, on commence à parler de l'avenir, quoi, de s'installer ensemble, de fonder une famille. Lui, c'est quelque chose qu'il aimerait bien concrétiser, avoir des enfants assez jeunes. Moi, j'ai 5 ans de plus que lui, donc je sais que ça va pas tarder à me titiller. Mais pour autant, on veut quand même créer notre cocon avant. Et très vite se pose la question de est-ce qu'on va chercher un appartement à louer ou est-ce qu'on va acheter une maison. Et puis, on a des situations qui font que ben, finalement, on peut se permettre d'acheter. Et on commence à chercher notre maison à partir de novembre 2018. Donc ça fait 6 mois. Et on commence à chercher notre maison qu'on trouve assez rapidement. Bon, on en visite pas mal, mais on trouve le coup de cœur à tous les deux. Ce dont on rêvait tous les deux, une maison style maison un peu de plage, de bord de mer, avec des pins, un grand jardin. Enfin voilà, vraiment notre souhait à tous les deux. On la trouve en décembre et donc on va signer le compromis très rapidement. On va signer le compromis en janvier et on reçoit un courrier du notaire qui nous dit qu'on signera la vente définitive le 2 avril 2019. Donc un an jour pour jour après sa promesse de cette soirée où il m'a dit que dans un an on faisait le bilan, je serais très heureuse. Et bien un an jour pour jour on a rendez-vous chez le notaire pour signer l'achat de notre maison. Tout est un symbole pour nous. On s'est regardé, on a dit le 2 avril mais c'est pas possible. Enfin on trouvait que c'était un clin d'œil du destin qui nous disait vous faites ce qu'il faut. Enfin c'est écrit. En parallèle de notre achat de maison, on se paxe et la mairie dans laquelle on appelle pour se paxer nous donne aussi la date du 2 avril, le matin, pour signer notre pax. Donc voilà, on la choisit pas non plus, on nous dit c'est le 2 avril, vous avez pas le choix, bon d'accord. Et il se trouve que c'est aussi le 2 avril. Donc le 2 avril, on a signé notre pax et signé l'achat de notre maison, on est devenu propriétaire de notre cocon familial finalement. C'est la date la plus importante de notre histoire, qui le restera certainement toujours, qu'on fête toujours, mais c'est tellement symbolique ce 2 avril qu'on se dit que l'histoire était vraiment écrite pour que ce 2 avril existe quoi. Derrière, donc, on s'installe dans notre maison. Très vite, on s'y sent très très bien, on fait quelques travaux, on continue à profiter, on voyage, on part au Baléares. On essaye de profiter en max parce qu'on se dit, voilà, on s'est donné comme objectif en juin que voilà, j'arrête ma pilule et on essaye de faire notre premier bébé, qui du coup arrive très vite puisque j'arrête ma pilule en juin et que je tombe enceinte directement. Et le 3 mars 2020, donc juste avant le Covid, naît notre première fille, donc Alice, qui sera la concrétisation de notre amour en fait. Et on va se retrouver confinés tous les trois, à essayer de s'apprivoiser, à commencer à connaître ce petit être tranquillement. Le confinement se passe très très bien, c'était je pense ce qu'il nous fallait, être tous les trois ensemble. Puis Alice grandit bien, c'est un bébé plutôt facile, donc on décide très rapidement de faire notre deuxième projet bébé. Et en juin 2021, je tombe enceinte pour la deuxième fois et le terme est prévu le jour anniversaire de notre première fille. Donc il y a toujours des histoires de dates dans notre histoire, des dates qui se répètent. Mais voilà, tout ça un peu perturbé quand même à l'automne, puisque je tombe enceinte en juin. Et à l'automne, il se trouve qu'on nous annonce, on a une petite écho entre la première écho et la deuxième, qu'il y a un problème en fait sur le fœtus, qu'il y a des énormes kystes qui poussent et on ne sait pas dans son abdomen et on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc on part en urgence sur Bordeaux faire des examens plus poussés. Il se trouve qu'en fait, c'est un kyste sur un rein qui grossit tellement qu'on ne sait pas s'il va laisser la place aux autres organes de se développer. Donc voilà, on a un peu cette épée de Damoclès sur la tête. Il faut attendre les échos d'après pour voir si le kyste arrête de pousser et s'il laisse les organes se développer ou pas. Donc là, douche froide. Et là, encore Julien qui vient à mon secours. Je suis incapable d'investir cette grossesse. Et lui est là, me porte à bout de bras. Et porte Alice aussi à bout de bras, puisque je suis, plus que l'ombre de moi-même. Je suis dans l'attente, en fait. Je sais pas. Je fais jour après jour, mais j'ai du mal à avancer. Et de la même façon qu'il l'a fait au début de notre histoire, il me prend par les épaules, il me regarde dans les yeux et il me dit « Je te promets que quoi qu'il arrive, je serai là et que on passera au-dessus de ce qui va nous arriver, quoi. » Et je sais, quand il me dit ça, que je peux lui faire confiance et que ça va bien se passer, quoi qu'il arrive, qu'on se relèvera de ça. Mais c'est toujours voilà, cette façon, ce toucher, c'est quelque chose presque de guérisseur dans ses mains et dans ses yeux qui font que ça me plonge dans une confiance totale en lui, en fait, et en la vie. Et du coup, je le remercierai jamais assez d'avoir été là à ce moment-là. Mais voilà, sans lui, je pense que je me serais écroulée. Finalement, en décembre, on nous dit que le kyste a stagné, a même un petit peu diminué, mais que du coup, en fait, c'est le rein qui ne s'est pas développé et qui n'est pas un rein, en fait, et que notre enfant n'aura juste qu'un seul rein qui va se résorber au fil du temps. Ce ne sera pas forcément handicapant, qu'on peut très bien vivre avec un seul rein et que les autres organes ont réussi à prendre leur place, donc qu'on peut être un peu soulagé, qu'il y aura un suivi mais, toute sa vie et un régime particulier, mais vraiment qu'il peut vivre normalement quasiment. Donc la bonne nouvelle, et on accueille du coup Martin le 28 février, donc il est arrivé 4 jours en avance, il devait arriver le 3 mars, il est arrivé le 28 février, pour notre plus grand bonheur, et puis pour finaliser notre famille et qu'on soit enfin tous au complet. Je voulais surtout raconter notre histoire parce que moi, je la trouve extraordinaire déjà. Je trouve que cette histoire de date et de promesses écrites droit dans les yeux était fabuleuse et je la trouve toujours fabuleuse et je la trouverai toujours fabuleuse. Et puis, je voulais surtout que Julien se rende compte de l'homme qu'il est, en fait, parce qu'il a quand même souvent tendance à pas avoir confiance en lui alors que c'est quelqu'un qui est... bienveillant, qui est droit, qui est doux avec les gens, qui fait tout pour les autres et qui a même tendance parfois à s'oublier lui-même. Et moi, j'avais besoin de lui dire que sans lui, j'aurais plusieurs fois baissé les bras et que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on a la belle vie qu'on a et que j'espère être à la hauteur de tout ce qu'il m'a donné et de lui rendre au moins ce qu'il m'a donné. C'est quelqu'un qui, par ses paroles, par ses gestes et par son regard, a quelque chose de guérisseur et de soignant. Je pense que c'est pas pour rien qu'il est soignant d'ailleurs. Il a une âme hors du commun et je voulais donner à voir ça aux gens et à lui, surtout parce que je pense que c'est lui qui a le plus besoin de le voir et de s'en rendre compte.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Agathe Soro qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires, ça nous aide beaucoup. Et si vous avez vous-même une histoire extraordinaire à nous raconter, envoyez-nous un résumé à podcastx1@gmail.com.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.